Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Mydia Portis Guérin, avec Sean-Éric Gerf à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron, Adèle Van Rett. Adèle, qui dans le journal des Nouveaux Chemins à 10h50 recevra Albert Augien et se demandera pour vous, avec lui, pourquoi désobéir en démocratie. Suite et suite, ce jeudi, en ce qui nous concerne, d'une semaine dans Shakespeare. Après Richard III, La Tempête et Le Comte d'Hiver, c'est de Coriolan qu'on va vous parler aujourd'hui, un chef-d'œuvre nietzschéen d'une fantastique efficacité, dans lequel il est question d'orgueil, bien sûr, de vengeance, de trahison, mais aussi et peut-être surtout de politique, du danger de l'opinion publique, de gloire et de démagogie.
Sédicieuse racaille qui a gratté la pauvre dalle de votre opinion, allez-vous faire les doutes ?
Nous avons toujours droit à un mot aimable.
Oh, celui qui t'accordera un mot aimable est un exécrable flatteur. Que voulez-vous ? Roquet, il n'aimait ni la paix ni la guerre. L'une vous effraie, l'autre vous rend orgueilleux. Vous faire confiance, si au lieu de lion, vous découvrir des lièvres, au lieu de renard, des oies. Vous n'êtes pas plus sûr d'entre le charbon de feu sur la glace ou de grain de soleil. Votre vertu est d'exalter le criminel et de maudire la justice qui l'a châtié. Qui mérite la grandeur, mérite votre haine. Et vos envies sont la pétille d'un malade qui désire le plus ce qui aggrave son mal. La corde, vous faire confiance. À chaque minute, vous changez d'avis et trouvez noble celui que vous haïssiez tout à l'heure, vil celui que vous couronniez. Y a-t-il pour qu'en plusieurs quartiers de la cité, vous veniez crier contre le noble Sénat qui, après les dieux, vous tient en respect et vous empêche de vous entre-dévorer ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Bonjour Gisèle Venet. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue de nouveau sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Bonjour Delphine Lemonnier-Texier.
Bonjour Raphaël.
Bonjour, vous êtes en duplex avec nous de Rennes. Je rappelle Delphine Lemonnier-Texier que c'est sous votre direction que des lectures de Coriolan sont parues aux presses universitaires de Rennes. Quant à Gisèle Venet, que j'hésite à présenter à nos auditeurs tant ils vous connaissent, je signale à venir la traduction de... Enfin, une nouvelle édition du Marchand de Venise en folio. Les notes sont de vous, la traduction est de Jean-Michel Desprats, c'est dire. Mais c'est de Coriolan qu'on va parler aujourd'hui. Et on va partir, si vous en êtes d'accord l'une et l'autre, de la scène 1 de l'acte 1, la première adresse de Coriolan au peuple, où vraiment, ce qu'on peut dire, c'est... Alors, évidemment, il est ouvertement antipathique, il ne cherche pas à plaire, mais à cet égard, c'est véritablement le contraire d'un démagogue, Gisèle Venet.
Oui, mais il situe ce que sera véritablement la planification que Shakespeare a produite pour sa pièce, qui n'est quand même pas... C'est une pièce politique, mais c'est surtout une tragédie du politique. C'est-à-dire de l'impossible conciliation des extrêmes. On a donc l'extrême de la démagogie, on a l'extrême du dédain que l'on retrouve chez Coriolan, et à aucun moment il n'est possible de concilier À tout moment, il va y avoir cette accusation de traîtrise contre Coriolan qui va naître soit de l'opportunisme de la foule, soit de l'opportunisme des patriciens.
Ce que vous désignez ici par tragédie, Gisèle Venez, il faut bien le préciser. Hein. Tragique signifie ici l'irréconciliable et non pas la structure tragique telle qu'on l'apprend en première en général quand on apprend que le tragique, c'est l'application de la providence aux lois des hommes et à l'impuissance
humaine.
Oui, là,
il n'y a pas de providence.
Il n'y a pas de providence
ici. Elle s'est absentée dans Coriolan. Et je pense qu'on a au contraire ce qui nous vient, enfin qu'on comprend mieux si on lit Giordano Bruno, c'est-à-dire si on se rend compte qu'on a là un héritage qui vient de Nicolas de Cuse, qui est révolutionnaire, il y a une coincidentia oppositorum, éphémère, possible dans l'œuvre d'art, mais cette coincidentia oppositorum, elle est radicalement interdite dans le réel.
L'art permet, Shakespeare en est la preuve, ce que la politique n'a jamais permis, ne permet pas. Delphine Lemonnier-Texier, cette impossible coïncidence du dédain et de l'opportunisme fait-elle, selon vous, à vos yeux, le fond et la ligne directrice de Coriolan ?
Je crois surtout, oui, tout à fait, mais je crois surtout qu'une des choses qu'il faut souligner pour les auditeurs dans cette pièce, c'est la tension entre une apparence d'histoire romaine, et c'est effectivement une source majeure, et la pièce parle de l'histoire romaine, mais c'est une histoire romaine qui est en réalité un déguisement ou une façade pour parler de problématiques qui sont proches, très proches du pouvoir monarchique élisabétain, jacobéen.
Et par là même, pardonnez-moi, de nous.
Absolument.
On va y venir
Absolument.
Ensuite, mais l'actualité de cette pièce est stupéfiante.
Ouais. Il y a une quantité d'anachronismes, notamment dans la fable du ventre qui précède immédiatement le passage que vous avez choisi de mettre en extrait. La fable du ventre telle qu'elle est dans Coriolan, c'est une fable du ventre revue et corrigée par la tradition chrétienne de la pensée politique chrétienne qu'on trouve tout aussi bien chez Jean Bodin, effectivement, dans les six livres de la République, que déjà dans le Polycratique de Jean de Salisbury du XIIe siècle. Il s'agit d'une image dans la bouche du premier citoyen, d'une image du corps politique, du corps social, de la royauté, puisqu'on vous parle de la tête couronnée.
Il est
donc
bien
ce
vrai.
Peuple,
allez-y.
Ce peuple, cette sédition populaire qui ouvre la pièce, ça fait directement écho à cause de cela, à cause d'un certain nombre d'écarts aussi avec Plutarque et Tite Live, le fait que la révolution dans Rome a lieu à l'intérieur de la cité chez Shakespeare et non pas sur l'Aventin, le fait que ce ne sont pas d'anciens soldats qui réclament une sorte de retraite plus élevée, mais le peuple qui a besoin de blé et qui se plaint du prix du blé parce qu'il est en train de mourir de faim, tout ça fait écho directement aux émeutes paysannes des Midlands de l'Angleterre de Jacques Ier. Tout cela signifie très fort pour le spectateur. Ça renvoie aussi à une pièce qui a été lourdement censurée dans les années 1590 qui traite de la vie de Sir Thomas More, qui est intitulée Sir Thomas More, et dans laquelle on a décelé sur le manuscrit la main de Shakespeare parmi celles de 5 autres auteurs. Et cette pièce a été censurée précisément parce qu'elle s'ouvrait par une scène de sédition urbaine à Londres.
Avant d'aller plus loin, écoutez-moi. Parlez. Parlez. Vous êtes tous résolus. La mort plutôt que la famine.
Résolus. Nous sommes tous résolus.
Bon. Vous savez que Caius Marcius est le principal ennemi du peuple.
Nous le savons.
Nous le savons.
Tuons-le. Et nous aurons le blé à notre prix. C'est votre verdict.
Assez parlé. Des actes.
En avant.
En avant.
Un mot, bon citoyen.
On nous appelle pauvres citoyens. Le bien, c'est pour les patriciens.
Ce pouvoir, ce gorge de ripaille dont l'excédent suffirait à nous secourir.
S'ils voulaient bien nous laisser leur reste avant qu'ils soient pourris, on pourrait dire qu'ils nous secourent par l'humanité. Mais nous leur sommes déjà plus chers. La mémoire qui nous afflige, le spectacle de notre misère est l'inventaire détaillé de leur abondance. Notre souffrance est pour eux un gain.
Notre souffrance est pour eux un gain, la phrase, est de Shakespeare et non pas de Marx. Et c'est une insurrection du peuple qui commence Coriolan. On l'entend ici dans la mise en scène de 2008 de Christian Scaretti. C'est Vladimir Yordanov qui joue le rôle de Coriolan dans cette pièce. Un autre point de contexte important, hein, donc vous avez parlé de Rome, Delphine Lemonnier-Texier, la plèbe qui meurt de faim est en train de se soulever à Rome. Il y a une division des Romains qui peut déboucher sur une guerre civile. il y a le patricien Ménénius, dont on va reparler, et qui est ami de Caius Marcius, autrement appelé ou plus tard appelé Coriolan, qui veut calmer le peuple, ce que Caius Marcius ne fait pas, lui, faisant preuve d'une extrême intransigeance, en particulier à l'endroit des tribuns chargés de représenter le peuple. Les pires ennemis de Coriolan sont les plébéiens, Gisèle Venet. Est-ce que cela suffit à faire, comme les plébéiens le disent, de Coriolan un tyran ?
Non. Il n'est jamais conçu comme un tyran dans la pièce.
C'est même le contraire, en un sens.
Absolument. C'est le seul qui ait la capacité de la modestie. C'est le seul qui ait la capacité du sacrifice. C'est le seul qui ne désire pas le pouvoir. Il n'en a aucune volonté. Il accepte à la rigueur d'être consul à rebours, si on peut dire. Donc, à aucun moment, il n'y a cette complaisance dans le politique ou la politique, comme on dirait pour opposer les deux éléments, dans notre jargon moderne. Et donc, Shakespeare s'arrange pour que, à tout moment, chacun ait raison le temps d'une parole, mais pour nous montrer que véritablement, à la fin, toutes ces langues de bois successives qui auront dit la misère du peuple, dire la raison des plébéiens, dire la raison des patriciens, dire les raisons même de Coriolan, toutes ces voix ne seront jamais justement que des voix de bois incapables de nous donner un équilibre politique qui puisse faire vivre ensemble autrement que dans le drame.
Ce que vous dites de la modestie de Coriolan est si vrai, hein, Gisèle Venet, qu'après la bataille contre les Volsques, que Coriolan gagne littéralement tout seul.
Hein, Très important qu'il gagne tout seul.
Oui, enfin, c'est tel Rambo défiant l'armée soviétique. Hein, Coriolan se paye les Volsques à lui tout seul, en particulier le général Aufidius, son ennemi juré dont on reparlera tout à l'heure. Et au terme de cette bagarre, de cette bataille épique, où évidemment tout le monde reconnaît sa grande bravoure, Coriolan dit « Assez, je vous prie, ma mère, qui a bien le droit de vanter son sang, m'afflige quand elle me loue. J'ai fait comme vous ce que j'ai pu, animé comme vous par l'amour de ma patrie. Quiconque a prouvé sa bonne volonté a accompli autant que moi. » C'est une modestie paradoxale, Delphine Lemonnier-Texier, que celle de Coriolan, puisque voilà un homme qui est simultanément le plus dédaigneux, le plus hautain des hommes, et en même temps le plus modeste quand il s'agit d'évaluer sa propre valeur, sa propre bravoure.
Mais il n'est pas dédaigneux dans le sens où je ne crois pas véritablement qu'il méprise le peuple. Il traite le peuple de manière constante et de manière qui lui semble juste à lui.
Vous, délicieuse racaille, voilà donc votre troupeau.
Certes, oui. Mais contrairement à Ménénius, contrairement à tous les autres, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de scène où on voit une duplicité chez Coriolan à ce niveau-là. Il est face au peuple comme il est avec les patriciens lorsqu'il parle du peuple. Et il est le seul de sa classe sociale à se comporter ainsi. Tous les autres patriciens, face au peuple, tiennent un type de discours, et entre eux, sur ces mêmes membres du peuple, un autre type de discours. Donc, effectivement, il est hautain, il est détestable, il est fait pour être détestable, il est fait pour être antipathique. On le voit arriver tardivement dans une scène où la conciliation de Ménénius a fonctionné, et il est là et il leur crache dessus au sens propre. C'est l'antiflatteur. Je crois que c'est vraiment cette qualité, cette vertu qu'on peut lui reconnaître. Son discours, c'est le contraire de la flatterie, qui est, comme on le voit chez Shakespeare et partout ailleurs d'ailleurs dans les écrits politiques de l'époque, le poison de la monarchie, le poison du pouvoir.
La flatterie et le poison du pouvoir, c'est vous qui l'avez dit. Et Coriolan dit ceci, quand on le complimente après sa bataille, il dit « Souvent les paroles m'ont fait fuir, moi que les coups ont toujours fait rester. Vous ne m'avez pas flatté et partant, pas blessé, Gisèle Venet. Voilà un homme que la caresse, que la flatterie, que la fausse flatterie, donc le mensonge en un sens, et c'est là tout le caractère absolu, comme dira sa mère à Coriolan, que tout son caractère absolu lui porte à lui-même préjudice. Voilà un homme qui ne peut pas flatter, mais qui ne peut pas plus être flatté lui-même. À la limite, il traite le peuple comme il se traite lui-même. D'ailleurs, il dit « je l'aime comme il le mérite ».
Oui, d'ailleurs, il a une sorte de pédagogie élitiste quand il dit « le blé, ça se mérite. Et vous avez oublié de combattre. Donc, n'ayant pas combattu à Coriolan, comment osez-vous, maintenant, en réclamer le blé ?
Il y a une formule de Coriolan qui peut-être résume sa position. Pour le coup, c'est vraiment une position typiquement nietzschéenne. Nietzsche a écrit qu'il lui était odieux de suivre autant que de guider. Or, Coriolan dit ceci dans la traduction sujette à caution, je le sais, de François-Victor Hugo, mais sur laquelle j'ai la mauvaise habitude de travailler. Coriolan dit ceci: j'aime mieux les servir à ma guise que les commander à la leur, Delphine Lemonnier-Texier.
Oui, il refuse de se plier aux règles du jeu politique, aux règles du jeu social. Le tableau que dresse Shakespeare de la République romaine est un tableau extrêmement dévalorisant où la théâtralisation du processus électif, la théâtralisation du processus représentatif avec les tribuns, avec leur statut, les discours stéréotypés qu'on tient dans un lieu et pas dans un autre, au Sénat en cercle fermé, les sénateurs devant le peuple, etc. Tout ça est ramené finalement à la pire critique qui soit du jeu théâtral, c'est-à-dire un faux semblant absolu, une parodie de rituel dans lequel le peuple investit une croyance, la croyance en une représentativité fonctionnelle, et dans laquelle au contraire les patriciens voient un outil qui permet de berner la naïveté de ces plébéiens.
Tiens, écoutons à cet égard celui qui déteste le peuple encore plus que Coriolan et qui, à la grande différence de Coriolan, lui recherche les flatteries, vous allez le reconnaître.
Les scélérats, hein, vous avez vu? Pour un peu, il meurt. Eh oui, monseigneur, c'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Non, pas là. Pas là. Là. Il n'y a pas assez de mousse.
Il n'y a pas assez de cheveux, non plus.
Voilà. Et maintenant, Blaze, flattez-moi.
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne.
C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. Alors,
imbécile.
Qu'est-ce que vous dites?
Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Tu l'as pas regardé, qui me dit? Ah ben, il faut pas se fier aux apparences que j'y réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante, qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père, qui...
Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça?
J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas.
Tu osais? Je vous ai, allez-y.
Monseigneur est beau.
Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites?
Je flatte.
Vous ambitionnez les coups de chapeau et les courbettes des pauvres airs. Vous épuisez toute une sainte matinée à ouïr une chicane entre une vendeuse d'oranges et un marchand de canules et vous ajournez cette controverse de trois oboles à une seconde audience. Quand vous entendez une discussion entre deux parties, s'il vous arrive d'être pincé par la colique, vous faites des figures de mascarade, vous arborez le drapeau rouge contre toute patience et, hurlant après un pot de chambre, vous renvoyez l'affaire sanglante, embrouillée de plus belle par votre intervention.
C'est bien, bien belle. Tiens, regardez-moi. Tu vois, tu vois.
C'est bien. Delphine Lemonnier-Texier et Gisèle Venet sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, dans une semaine sur Shakespeare, c'est de Coriolan que nous parlons aujourd'hui. Le passage que je viens de lire de Coriolan, après La Folie des Grandeurs, donc avec Don Salluste, enfin Louis de Funès en Don Salluste, ce passage, cette phrase, cette longue phrase n'est pas de Coriolan, elle est de son ami, Ménénius, qui, de ce point de vue, s'en prend ouvertement aux opportunistes, au flatteur, et je voudrais qu'on en vienne à un paradoxe sur la personne de Coriolan, c'est que c'est le contraire d'un opportuniste, c'est même celui qui va assurer sa propre ruine et la mauvaise réputation que le peuple et ses tribuns vont lui faire. Il va vraiment faire tout ce qu'il faut pour se rendre haïssable, et dans le même temps, c'est celui qui, sur le champ de bataille, saisit toujours l'occasion propice, le kairos. Il est aussi opportuniste sur le champ de bataille qu'il ne l'est pas en politique. Est-ce qu'il n'y a pas ici, en filigrane, l'idée que, contrairement à ce que dit Clausewitz, la politique et la guerre sont véritablement deux registres complètement différents? Gisèle Venet, qu'en pensez-vous?
Oui, d'ailleurs, c'est très bien dit dans le texte de Shakespeare, où justement, sa mère lui dit que, puisque l'honneur n'est conciliable qu'avec la guerre, que faut-il faire dans la paix? c'est-à-dire cette dissociation véritablement. Or, comme il est homme d'honneur, effectivement, que fera-t-il dans la paix ?
Delphine Lemonnier-Texier.
Marqué.
Bah, je pense qu'il est victime d'une éducation pour laquelle il a été formaté par sa mère, qui, elle, est une opportuniste politique. Et quelque part, il a le tort de croire aux valeurs qu'on lui a inculquées au premier degré, sans se rendre compte que sa mère lui a inculqué la bravoure des enfants spartiates, parce que c'est presque une mère spartiate, hein, Volumni, même si on est à Rome.
Volumni, c'est la mère. Hein.
Oui, Volumnia, la mère. Donc il a intégré ces valeurs-là, et ce sont les valeurs qui ont du sens, qui ont cours pour lui, alors que sa mère les lui a inculquées quelque part uniquement pour qu'ensuite elle puisse se traduire, presque se convertir au sens monétaire, non pas en espèce sonnante et trébuchante, mais en voix sur la place publique.
Oui, c'est la grande différence entre la mère et la femme de Coriolan d'ailleurs, hein, parce que la femme de Coriolan a peur tout simplement pour son mari sur le champ de bataille, sa mère non. En revanche, elle ne veut pas, et c'est un personnage à cet égard extrêmement ambigu, elle ne veut pas que Coriolan ruine la carrière politique qui s'ouvre devant lui après son triomphe devant les Volsques. On va entendre, tiens, la mère de Coriolan, justement, s'insurger contre son absolutisme. C'est Hélène Vincent qui l'incarne, toujours dans la mise en scène de Christian Sciaretti. Écoutez.
Mais vous êtes trop absolu ! Sur ce point, il est vrai, on n'est jamais trop noble. Sauf quand parle la nécessité. Je vous ai entendu dire qu'honneur et politique à mise inséparable vont de pair à la guerre. Si l'on admet cela, dites-moi ce que dans la paix, l'un fait perdre à l'autre pour qu'on ne puisse pas les y associer.
Ah, bonne question.
Si l'honneur dans vos guerres permet de paraître ce qu'on n'est pas, politique que vous adoptez pour parvenir à vos fins. Pourquoi cette politique ne prétend-elle tenir compagnie à l'honneur dans la paix comme elle le fait dans la guerre, si dans les deux cas, elle est également requise?
Et pourquoi insister ainsi?
Parce que maintenant, il vous incombe de parler au peuple. Non d'après vos convictions, ni d'après les sentiments que votre cœur vous souffle, mais avec des mots que votre langue connaît de routine. Mots bâtards, syllabes désavouées par la vérité de votre âme.
Je t'en prie, mon fils, va te présenter à eux, ton bonnet à la main, et le leur tendant ainsi, effleurant du genou les pierres, secouant la tête et frappant ainsi maintes fois ta poitrine superbe, sois humble comme la mûre qui cède au moindre attouchement. Ou bien dis-leur que tu es leur soldat, et qu'étant élevé dans les batailles, tu n'as pas ces douces façons que, tu l'avoues, ils pourraient en toute convenance exiger de toi quand tu leur demandes leur faveur, mais qu'en vérité, tu veux désormais leur appartenir, et leur consacrer entièrement ton pouvoir et ta personne. Gisèle Venet, Coriolan est-il inapte à la politique ou bien appartient-il à cette espèce rarissime de ceux qu'on appelle les véritables hommes d'État, selon vous ?
Je crois que c'est que la politique est inapte à créer le politique.
Ah, ça, c'est une réponse absolutiste, hein, pour le coup. Hein. C'est une réponse rousseauiste.
Bah, c'est ce que dira Hobbes. Hobbes dira il n'y a pas d'horizon politique, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison d'État, il n'y a plus rien. Donc, acceptons, effectivement, un contrat qui nous agenouille devant un absolutisme. Ça n'est pas le pire de tout ce qu'on peut attendre. Il y a derrière ça, Hobbes, comme il y a eu juste avant ça, Machiavel. C'est-à-dire qu'on est vraiment saisi, là, dans une poigne de la pensée désespérée du politique. C'est pas étonnant qu'on ait Coriolan.
Juste un point, il y a même une référence explicite, me semble-t-il, à Machiavel, quand Coriolan refuse de faire le renard.
Exactement. Exactement. Et donc, je pense qu'il y a dans cette pièce, il ne faut pas la diluer dans une sorte de critique des opportunismes, mise en vertige des opportunismes, etc. Parce que ça, c'est déjà fait, parce que tout le monde l'a fait, parce que c'est dans tous les traités, dans tous les pamphlets du temps. Ce qui est intéressant, c'est ce que Shakespeare va en faire.
Delphine Le Meunier-Texier.
Je crois qu'il y a un conflit entre deux systèmes de valeurs. L'ancien système qu'incarne Coriolan, l'espèce d'absolu, effectivement, du critère martial de la valeur de l'homme en tant que soldat, en tant que guerrier. Et dans ce registre-là, effectivement, il est exceptionnel. De nouveau, la modification des sources, à mon sens, est très importante. Dans les sources qu'utilise Shakespeare, il remporte sa victoire, mais en compagnie d'une douzaine de soldats. C'est quand même très différent de rencontrer donc une ville tout seul, d'être face à une ville entière et de gagner la bataille, ce que Shakespeare en fait. En même temps, cette bataille n'est jamais montrée, parce que sa dimension spectaculaire, évidemment, excède tout ce qu'on pourrait montrer sur la scène jacobéenne, mais aussi parce qu'il faut qu'il demeure une part de mystère. Cet absolu, c'est ce héros absolu. Vous parliez de Rambo, effectivement, c'est l'équivalent de l'époque. C'est un héros absolu. C'est le soldat, avec un grand S, hein, un soldat excessif, hyperbolique, un soldat comme il n'en existera jamais. Et pourquoi Shakespeare insiste comme ça, caricature ainsi cette dimension en la rendant hyperbolique, pour montrer justement l'incompatibilité de ces deux systèmes de valeurs.
Ce qui est extraordinaire dans cette pièce, c'est le fait que, véritablement, quand on lit cette pièce, on peut être exaspéré par la façon dont il parle au peuple, par exemple. On peut être d'autant plus exaspéré par l'usage que les démagogues font du mauvais caractère de Coriolan. Mais à aucun moment, et c'est tout le sens de la question que je vous posais tout à l'heure, Gisèle Venet, à aucun moment on est en présence d'un tyran. On a le sentiment d'être en présence d'un tyran. On a plutôt le sentiment d'être face à quelqu'un, Delphine Le Meunier-Texier, qui n'aime pas le pouvoir.
Qui n'aime pas la politique, non, qui n'aime pas l'univers politique, pour lequel les choses n'ont de sens que dans un cadre qui est tout à fait restreint. Enfin, je crois, moi, qu'on peut comprendre bien la pièce si on se souvient qu'il parle d'Ophidius, donc son adversaire, le chef des Volsques, en disant « c'est un lion que je suis fier de pourchasser », c'est-à-dire le lion de Némée, quelque part. Hein, c'est Hercule dont il est question en filigrane derrière tout cela, comme souvent quand on est dans la tragédie. Il joue sa tragédie à lui, qui est la tragédie de l'individu exceptionnel du héros au sens mythologique du terme, et face à Ophidius, il veut bien apparaître costumé ou maquillé. Il dit d'ailleurs après la bataille, je ne vais pas me nettoyer, je ne vais pas me laver, parce que devant Ophidius, je veux être peint comme ça, je veux être couvert de sang comme ça.
Et dans le même temps, c'est cet excès de confiance qui lui vaudra sa perte, puisque Ophidius lui-même, personnage plus complexe en un sens que Coriolan, moins absolu, Ophidius dit, on est à la fin de l'acte 1, ma valeur est empoisonnée par la souillure qu'il lui a faite, pour lui, elle s'arrachera à son essence, je veux plonger dans son cœur ma main farouche. On assiste en direct à la conversion à la fourberie d'un homme d'honneur et qui, 4 actes plus tard, fera preuve d'une telle fourberie que Coriolan en fera les frais. Gisèle Venet.
Oui, je crois qu'il est nécessaire. Il est absolument nécessaire parce qu'il sera, Ophidius ne sera jamais Coriolan. Et il a pris, Coriolan a pris à Ophidius cette gloire même qui est Coriole, le nom de Coriole qui aurait dû appartenir à Ophidius et qui revient à Coriolan.
Oui, il lui a volé son nom puisque l'enjeu c'était la bataille de Coriole.
Voilà. Donc, et en même temps, ce Coriolan, ça n'est pas Coriole qui l'intéresse. C'est d'être, Shakespeare le dit lui-même, l'auteur de lui-même. Il veut être auteur de lui-même. On a donc là quelqu'un qui devient Coriolan dans la pièce, devient ce qu'aucun ne peut devenir. Ils restent tous ce qu'ils étaient au début de la pièce. Aucun n'a ce parcours extraordinaire qui est le parcours de Coriolan. Bien entendu, comme tout héros tragique qui devient, il en mourra.
Que les Volsques traînent la charrue sur Rome et la herse sur l'Italie, je ne serai jamais de ces oiseaux qui obéissent à l'instinct, je résisterai comme un homme qui serait né de lui-même et ne connaîtrait pas de parents. Gisèle Venet, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de providence dans Coriolan. Il y en a très peu dans l'œuvre de Shakespeare, d'ailleurs, de façon générale. Enfin, on pourrait discuter de ça, mais c'est une autre affaire. Mais enfin, voilà un homme qui se dit né de lui-même. En un sens, c'est la figure même de la liberté. En un autre, c'est un homme qui se prend pour Dieu. Il est causa sui. Delphine Le Meunier-Texier, est-ce que de ce point de vue, Coriolan ne verse pas dans l'hubris, dans la démesure, au moment où il dit ça ?
Si, certainement. Si, bien sûr. Bien sûr.
C'est-à-dire... Gisèle Venet n'est pas d'accord, tiens. C'est dommage que vous ne soyez pas en studio toutes les deux, hein. Gisèle.
Eh bien non, parce qu'il devient lui-même. Il faut qu'un jour on ait, au bout de toutes ces tragédies de Shakespeare, c'est la dernière, il n'y en aura plus après. Après, il y aura des comédies de la Renaissance, des comédies de la Recomposition, etc. C'est la dernière fois qu'on a un être tragique en scène, et cet être tragique, effectivement, il incarne l'être absolu. Mais l'être absolu qui va mourir d'être.
Il y a nombre de grands personnages qui ont flatté le peuple et ne l'ont jamais aimé. Et il en est d'autres que le peuple a aimé sans savoir pourquoi. Or, si le peuple aime sans savoir pourquoi, il peut haïr sans meilleur motif. Donc, en ne se souciant ni de sa haine ni de son amour, Coriolan prouve qu'il connaît à fond sa disposition et il le lui fait bien voir par sa noble indifférence.
Prenons aujourd'hui par ces rassemblements la lettre ouverte que tous les syndicats, presque tous les syndicats, ont adressée au président de la République. En l'état actuel des choses, il ne peut pas y avoir un vote sur cette loi injuste et inefficace. Et en même temps, l'autre message, c'est de dire, même si vous votez, vous députés, il faut que vous le sachiez, nous allons continuer. Il faut qu'on soit clair avec l'ensemble des salariés. Vous partagez nos critiques, vous partagez les messages à adresser auprès du gouvernement. Mais ça ne change pas fondamentalement la situation. Vous soutenez le mouvement, on n'a pas besoin uniquement du soutien, on a surtout maintenant besoin de votre participation. Et il faut que les uns et les autres s'engagent à participer à ce mouvement. Chacun à sa manière, donnons-nous l'objectif d'être encore plus nombreux que ce que nous avons fait dans les réunions et les journées précédentes, singulièrement le 7 septembre.
Réponse de Coriolan à Bernard Thibault. Là où un parti ayant tout droit de dédaigner l'autre parti est insulté par lui sans raison, là où la noblesse, le rang, l'expérience ne peuvent rien décider que par le oui et le non de l'ignorance populaire, la société voit négliger ses intérêts réels et est livrée à l'instabilité du désordre. De cette opposition à tout propos, il résulte que rien ne se fait à propos, arracher sur le champ la langue à la multitude, qu'elle ne puisse plus lécher le miel dont elle s'empoisonne.
Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Je vous chie à la lèvre.
Delphine Lemonnier-Texier et Gisèle Venet sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi pour parler de Coriolan. Que valent, selon vous, Gisèle Venet, que vaut la tentation permanente devant une telle pièce de lui appliquer des cas de figure ultra contemporains, voire tirés de l'actualité la plus immédiate? Est-ce qu'on a raison de faire ça ou est-ce qu'on tire la pièce par les cheveux?
Je crois que Shakespeare nous a donné tous les éléments, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait, là, basiquement, la révision de tout ce qu'on peut savoir sur tous les opportunismes, toutes les défaillances de la vie politique, toutes les défaillances des décisions politiques. Shakespeare sait que, ou bien il faut accepter le compromis avec toutes ces lâchetés, ou bien s'il n'y a pas de compromis, il y a une tragédie. Il a opté dans Coriolan pour la tragédie, et il ne nous a pas dit « compromettez-vous », et la compromission l'emportera.
Delphine Lemonnier-Texier.
Je pense toujours que le travail sur le matériau historique, qui est à la fois donc une façade romaine et en réalité truffée d'anachronismes, qui renvoie au début du XVIIe siècle...
est une invitation à le faire,
voilà,
non ?
Tout à fait. C'est exactement cela. C'est en utilisant de manière assez paradoxale cette histoire romaine pour en faire un support à finalement toutes les contestations et aux réflexions sur tous les contextes possibles de contestation, En plus du fait que c'est tout de même une œuvre majeure qui met le peuple au premier plan, y compris au sens propre.
Mais qui met le peuple au premier plan, parce qu'elle le soumet, parce que tout le monde est soumis aux volontés du peuple, sauf celui qui en est la victime.
Tout à fait. Et puis, si vous regardez comment est construite la pièce, finalement, on n'a jamais de monologue avec le personnage principal. Si on accepte un tout petit peu de s'écarter de critères purement mimétiques dans la construction de la notion de personnage, on a finalement le personnage du peuple, dont les voix sont anonymes, hein, premier citoyen, deuxième citoyen, troisième citoyen. Donc ce ne sont pas des individus, ce sont des voix qui constituent cette multitude, cette image d'hydre effrayante, ce monstre aux mille bouches dont vous parliez tout à l'heure. On a ce peuple en scène, seul, qui délibère avec lui-même. Et c'est ça l'essence du monologue tragique. C'est un personnage qui se parle à lui-même, qui se questionne lui-même. Est-ce qu'on va l'assassiner? Est-ce que vous êtes tous résolus? Est-ce que Caius Marcius est vraiment l'ennemi du peuple? Donc finalement, il me semble qu'il y a une subversion par les codes dramaturgiques de cet interdit de représenter la sédition qui a pesé dans les années 1590 qui permet aussi, donc, en mettant le peuple au premier plan, de faire un petit peu bouger les lignes de force de la monarchie et en obligeant la classe dirigeante monarchique, donc, de l'Angleterre jacobéenne, à prendre en compte ces nouvelles réalités concrètes de la société, où le peuple a de plus en plus de voix par ses représentants, par le Parlement, etc. On n'est pas très loin de la Révolution. Hein.
En faisant le portrait sans concession, en tendant au peuple un miroir si fidèle qu'il n'est pas digeste par lui, puisque finalement c'est ce que fait Coriolan, qui renvoie au peuple l'image de sa versatilité, qui le montre tel qu'il est ou tel qu'il se donne, c'est-à-dire manipulable, versatile, changeant, facile, qu'on peut convaincre facilement et ainsi de suite. En tendant ce miroir-là, Shakespeare, d'une certaine manière, fait comme Machiavel dans Le Prince, œuvre utile, c'est-à-dire qu'il donne finalement au peuple le mode d'emploi d'une, alors j'ose à peine employer le mot, d'une démocratie.
Mais quelque part, c'est bien cela, oui, puisque on montre au peuple qu'il faut se défier de l'idolâtrie. C'est une idole, Coriolan. C'est comme ça qu'on le construit politiquement.
Gisèle, venez.
On montre aussi très bien qu'il faut se défier de la démocratie.
Bien sûr, oui, par le même biais.
Parce que Shakespeare n'est pas un moderne, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus.
Peu de pièces mettent en scène aussi bien les pathologies de la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure du monstre aux mille têtes. Alors, c'est une erreur qui vient de la conversation qu'on a eue micro, hein, Delphine de Monnier-Texier, puisque ce n'est pas le monstre, c'est la multitude aux mille têtes. En revanche, François-Victor Hugo, paix à son âme, a traduit le monstre aux mille têtes. Tout ça est rétabli par Christian Scaretti dans sa mise en scène donc de 2008. Il parle de multitude aux mille têtes. C'est la scène 2 de l'acte 3, écoutez.
Une fois pour toutes, s'il sollicite nos voix, nous ne devons pas lui dire non.
Nous pouvons, monsieur. Si nous voulons.
Nous avons en nous le pouvoir de le faire. Mais c'est un pouvoir que nous n'avons pas le pouvoir d'exercer. Car s'il nous montre ses blessures et nous dit ses exploits, nous devons mettre nos langues dans ses blessures et parler pour elles. Donc, s'il nous dit ses nobles exploits, nous devons, nous, lui dire notre noble reconnaissance. L'ingratitude est monstrueuse. Et si la multitude était ingrate, la multitude serait un monstre. Nous-mêmes serions, de ce fait, des membres monstrueux.
Il en rend trop peu pour avoir cette opinion de nous. Quand nous nous sommes soulevés pour le blé, lui-même n'a pas hésité à nous appeler la multitude aux mille têtes.
Gisèle, venez, Delphine de Monnier-Texier, il y a une phrase qu'on a bien reprochée à Nietzsche. J'ai parlé tout à l'heure d'une pièce nietzschéenne, voici pourquoi. Il y a une phrase qu'on a bien longtemps reprochée à Nietzsche et qu'on lui reproche encore maintenant. Ça fait partie des malentendus tenaces qu'il y a sur ses textes. Nietzsche a dit en substance qu'il fallait protéger le fort contre le faible. Le fort étant évidemment moins fort que le faible, car le faible est plus nombreux. Protéger le fort contre le faible, c'est ce que Bergson dira quand il dira, en substance là aussi, de protéger la qualité contre la quantité. L'idée de protéger le fort contre le faible est intéressante. Ici, je veux savoir ce que vous en pensez. La multitude se désigne elle-même comme multitude, comme puissante, refusant d'être un monstre, refusant d'être ingrate. Coriolan, quand on veut le décorer, quand on veut lui donner les plus hautes fonctions de l'État, dit « arrêtez de faire un monstre de mon néant ». Est-ce qu'on peut appliquer à la pièce, à la tragédie Coriolan, l'idée selon laquelle il faut protéger le fort contre le faible? Gisèle Venet.
Évidemment, il y a une apocalypse de la force dans Coriolan. C'est véritablement là qu'il y a une sorte de... d'impuissance radicale, puisque même le plus glorieux, même le plus fort, même le plus modeste ne peut plus rien, agenouillé avec sa mère, quand effectivement il cède à sa mère, qu'avez-vous fait ? Regardez, les yeux, les cieux s'ouvrent, les dieux abaissent le regard et rient. Quand il cède, quand effectivement il ne prendra pas Rome, il ne va pas mettre Rome en flamme, eh bien à ce moment, il pense à forger une paix équitable. Or, la réponse est immédiate. Quatre vers après, Aufidius voit que sa pitié et son honneur sont en contradiction et que donc là, il va reconstruire son ancienne fortune.
Alors, il faut redire les choses pour les auditeurs très, très rapidement. Coriolan passe au camp ennemi, passe chez les Volsques. Après son procès, qu'il perd évidemment en insultant ses accusateurs, un procès qui n'est pas sans rappeler l'apologie de Socrate, d'une certaine manière, mais ce serait plutôt l'apologie de Calliclès ici. Une fois qu'il a perdu son procès, il passe à Aufidius, qui lui fait d'abord grand accueil, qui fait ensuite équipe avec lui, mais Coriolan prend évidemment la tête de l'armée et... pour conquérir Rome. Rome lui cède l'accueil en conquérant qu'il est, et Aufidius ensuite se retournera contre Coriolan, Delphine Lemonnier-Texier.
Je voulais juste revenir sur cette notion du fort qui est victime des faibles, parce que c'est exactement cela que Shakespeare met en scène quand les femmes, qui sont la dernière carte, la dernière chance de Rome, l'ambassade menée par les femmes, par
c'est-à-dire par sa mère et sa femme.
Sa mère, sa femme, Valéria qui représente la Vierge, une figure de Vierge, donc la femme vertueuse, et puis son fils... Son jeune fils, hein, qui, comme tous les enfants, les garçons en bas âge, est plutôt assimilé à la sphère féminine qu'à la sphère masculine à l'époque de Shakespeare. Donc, c'est ce symbole de la faiblesse, puisque la femme dans la société jacobéenne est considérée comme un être faible, sous la dépendance de son mari ou sous la dépendance de son père, pour les plus jeunes d'entre elles. Ces femmes, avec leurs seules armes de femmes, c'est-à-dire leurs genoux et leurs larmes, vont remporter la victoire, comme le dit Coriolan lui-même, vous avez, mesdames, remporté une victoire que toutes les épées d'Italie auraient été impuissantes à remporter.
Delphine de Monnier-Texier, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la défaite juridique de Coriolan devant les imprécateurs et les tribuns de la plèbe et la défaite devant une femme ou devant des femmes et un enfant qu'il aime tendrement? Est-ce qu'au fond, c'est la même défaite que de s'incliner devant la démagogie en lui crachant la gueule et de s'incliner devant sa mère, sa femme et son fils qui trouvent les paroles les plus émouvantes qui soient?
Non, bien sûr, mais par contre la chose qui demeure, c'est cette figure hyperbolique de la force dont on parlait tout à l'heure, ce héros absolu et qui est pourtant défait à deux reprises par tout autre chose qu'une armée. Donc c'est bien qu'il y a un conflit entre ces deux systèmes de valeurs, les valeurs martiales d'un côté, les valeurs de la sphère politique et privée de l'autre. Mais là, le politique et le familial sont très étroitement mêlés. C'est à la fois la ville de Rome et puis sa mère qui s'incarne quelque part en même temps dans le personnage de Volumni.
Gisèle Venet.
Oui, Ménénius dit à l'acte 5, quand tout s'effondre, effectivement.
Ménénius, vous me disiez tout à l'heure que c'était Mitterrand. Si Coriolan, dans l'hypothèse où Coriolan serait de Gaulle, Ménénius serait Mitterrand.
Il représente une sorte d'opportunisme prudent contre l'opportunisme violent de la foule. On peut dire qu'on a ces deux opportunismes sommaires, disons, et tellement caricaturés finalement dans cette pièce que je me demande s'il faut les prendre à ce point au sérieux, bien qu'effectivement, dramatiquement parlant, ça fonctionne. Hein. C'est génial, on s'y reconnaît tous, enfin c'est absolument formidable. Mais Ménénius sait voir qui est Volumnia, il dit « Elle vaut toute une cité de consuls, de sénateurs, de patriciens et de tribuns tels que vous. Elle incarne une autre Rome. » Elle est vraiment l'incarnation de Rome, là, et elle sauve Rome. Qui sauve Rome.
C'est elle le héros. Et j'utilise l'écart entre le masculin et le féminin tout à fait volontairement.
C'est ce que j'allais vous dire, oui. C'est elle le héros.
Au sens...
Non, elle n'est pas capable d'être le héros.
Gisèle Venet n'est pas d'accord.
Politiquement, si. C'est comme ça qu'elle est accueillie quand elle revient. C'est qu'on lui fait triomphe. On lui fait le même triomphe que Coriolan quand il est arrivé après la bataille de Corioli. Elle a le même statut.
Elle incarne la nécessité. Il y a une nécessité d'être romain. il y a une nécessité de ne pas trahir. Il y a une nécessité de rester du côté de Rome. Elle l'incarne.
Mais vous voyez, Gisèle Venet, qu'il y a bien chez Coriolan quelque chose qui relève de l'hubris quand même. Quelque chose qui relève d'une folie qui va jusqu'à la trahison de Rome. C'est-à-dire qu'il pousse l'intransigeance jusqu'à trahir une ville qui n'est pas à la hauteur
de l'idée
qu'il
s'en fait. Oui, mais ça n'est pas au nom du politique. C'est-à-dire, ça n'est pas au nom d'une espèce d'instance supérieure du politique. Il le fait au nom d'une qualité de soi, d'une intégrité de soi, d'une impossibilité de partage et d'une quête de soi, finalement. Parce que ce qu'il va découvrir, à la fin, ayant été seul, intègre, dans le moment où il se sent vaincu, il dira « mettez-moi en pièces ». Et il l'accepte. Et c'est sa mort. Véritablement, ce héros d'une unité parfaite comme un bloc, il sera mis en pièces. C'est le marbre éclaté.
Et c'est extraordinaire. Et c'est le peuple.
Delphine Le Meunier-Texier.
C'est au peuple qu'il demande de le mettre en pièces. Cette fois-ci, il se livre. Contrairement à la scène de l'élection, où c'était vraiment avec beaucoup de réticence, qu'il d'ailleurs ne montre pas véritablement ses blessures. Il refuse cette pénétration symbolique des langues du peuple.
C'est d'autant plus intéressant, d'ailleurs, on a rappelé tout à l'heure que Coriolan voulait se montrer ensanglanté devant Aufidius, c'est-à-dire faire à Aufidius l'honneur des blessures qu'il a reçues de lui, mais à aucun moment il ne veut exhiber ses blessures pour briguer les suffrages du peuple.
Et pourtant, à la fin, tout à fait, il leur dit « mais allez-y ». Hein, coupez-moi en morceaux avec vos épées.
Donc, qu'est-ce que là, ça veut dire, ça?
Bah, justement, cette espèce d'échec tragique, quelque part, de son point de vue. C'est devenu le synonyme de la faillite. Les valeurs qu'il a défendues, les valeurs auxquelles il est fidèle, il est constant, il le dit plusieurs fois, je suis constant. La vertu de la constance est condamnée à la destruction, à l'annihilation dans l'univers que nous montre Shakespeare.
De ce point de vue, Coriolan et Ménénius se distinguent considérablement. Gisèle Venet, un dernier mot?
Oui, moi je crois qu'il est, il ne faut pas l'oublier, c'est une tragédie, ça n'est pas une petite histoire politique, on n'est pas dans l'anecdote politique, et véritablement il y a là une conquête d'un savoir, et Coriolan est le seul à savoir quelque chose de plus sur le monde en mourant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conciliation possible, qu'il n'y a pas effectivement de paix équilibrée, que trahir ou ne pas trahir revient au même. Le héros, de toute façon, est taillé en pièces.
À Coriolan, le mot de la fin, la scène première de l'acte 3, Coriolan face au tribun.
C'est là votre troupeau. Sont-ils dignes de s'exprimer, ceux qui accordent leur voix pour aussitôt récuser leur langue? Quel est votre fils? Si vous êtes leur bouche, gouvernez leurs dents. C'est vous qui les avez incités?
Du calme.
C'est un coup monté, une intrigue, pour brider les volontés de la noblesse. Souffrir cela, c'est vivre avec des gens aussi incapables de gouverner que revêtent sa lettre.
Ne parlez pas d'intrigue. Le peuple se plaît que vous vous êtes moqué de lui. Récemment, quand on a distribué le blé gratis, vous avez moqué, calomnié les représentants du peuple, les traitant d'opportunistes, de flatteurs, d'ennemis de la noblesse.
À quoi? C'est déjà connu.
Pas de tous.
Vous avez donc joué les mouchards?
Moi? Les moussards.
Vous en êtes bien capable.
Plus capable que vous de gouverner.
Mais pourquoi alors serais-je consul? Par ces nuages là-haut, si je démérite autant que vous, qu'on me fasse tribun comme vous.
Vous faites trop parade de ce qui irrite le peuple. Si vous voulez poursuivre dans la direction que vous vous êtes fixé, demandez votre chemin dont vous vous êtes écarté avec moins de hauteur. Sinon, vous ne serez jamais élevé au consulat. Il ne serait avec Brutus attelé au tribunal.
Nous restons calmes.
Le peuple est abusé, manipulé. Ce tripatouillage est indigne d'Europe. Et Coriolan n'a pas mérité ces obstacles déshonorants, perfidement placés sur le libre parcours de son mérite.
Vous me parlez du blé? Voici ce que j'ai dit. Je vais le relire.
Maintenant,
le feu de l'action, monsieur.
Sur ma vie, je parlerai. Mes nobles amis, j'implore votre pardon quant à la tourbe indécise, à l'odeur fétide. Qu'elle s'en remette à moi, je ne flatte pas. Elle verra son image. Je vous redis. Quand les cajolants nous fortifions contre le Sénat livré de la rébellion, de l'insolence, de la sédition, que nous avons nous-mêmes jeté dans le sillon, semé, éparpillé, en les mêlant à nous, les gens honorables qui ne manquent ni vertu, non, ni pouvoir, hormis celui que nous avons cédé à des gueux.
Alors, plus un mot,
plus un mot de grâce.
Ah, plus un mot. Ah, pour mon pays, je verserai mon sang sans craindre les armées étrangères.
Et mes poumons continueront à forger des mots contre ces lèpres dont nous redoutons la contagion, mais dont nous avons tout fait pour attraper l'infection.
Vos
parlez du peuple comme si vous étiez un dieu pour le châtier et non un homme infirme comme lui.
Nous ferions bien d'en informer le peuple.
I am the god of hellfire, and I bring you fire.
Un grand merci à toutes les deux. Delphine Lemonnier-Texier, je rappelle vos lectures de Coriolan, c'est sous votre direction et c'est aux presses universitaires de Rennes. Et Gisèle Venet, outre la Pléiade de Shakespeare, je signale Apparaître, le marchand de Venise avec la traduction de Jean-Michel Desprats. On est impatients. Sur France Culture, on quitte Shakespeare, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël, on quitte la fureur shakespearienne pour retrouver le cadre bien légal de la démocratie. Pourquoi désobéir en démocratie? C'est la question du jour. Bonjour Albert Augien.
Bonjour.
Pourquoi désobéir en démocratie? C'est la question que vous, le sociologue que vous êtes, vous posez avec la philosophe Sandra Logier dans un livre paru aux éditions de La Découverte et dans lequel vous réfléchissez au sens politique de la désobéissance. Alors la question est de savoir pourquoi on désobéit en démocratie, mais cette question-là peut paraître absurde tellement elle est évidente. Il me semble qu'on désobéit lorsque tout simplement on n'est pas d'accord avec une loi, avec une décision qui est prise par le gouvernement. Alors pourquoi est-ce que la question est en fait plus pertinente que cela? Pourquoi en fait, Albert Augien? Et non pas comment désobéit-on en démocratie?
Pourquoi désobéit-on en démocratie? De toute façon, on est parti d'un principe qui était un principe empirique. Il existe des gens qui se mettent en position de désobéissance et qui le décrètent. C'est un peu sur ces quelques-uns de ces décrets que le livre commence. Et donc, on s'est demandé comment se fait-il que des gens, alors que nous sommes dans un régime démocratique qui autorise à peu près toutes les libertés, quoi qu'on en pense, pourquoi doit-on se mettre en désobéissance? Étant entendu que la désobéissance est une forme d'action politique particulière dans laquelle on se met soi-même en nom propre dans une contestation et qu'on demande à être sanctionné pour le fait qu'on n'applique pas une loi. Donc la première question que la désobéissance peut poser, c'est pour quelle raison, dans un régime démocratique, des gens décident-ils de ne pas appliquer une loi? Il y a un second aspect, c'est la désobéissance civile n'a pas bonne presse en général, parce que normalement, si on se trouve dans un régime démocratique, désobéir, c'est remettre en cause le principe même de la démocratie. Et donc, ça amène à des dérives qui sont parfois dangereuses.
Voilà, c'est pour ça, en fait, la question pourquoi se pose, puisque la démocratie est un système dans lequel c'est le peuple lui-même qui choisit ses gouvernants. Et du coup, il paraît illogique de contester une décision qui a été prise par des gens qui les représentent eux-mêmes. C'est en cela que ça peut paraître que désobéir en démocratie peut paraître absurde.
Absolument, ça peut paraître absurde. Le problème, donc, si... C'est ce que Sandra Logier et moi-même, on s'est mis à penser. Si des gens désobéissent, c'est donc qu'il y a bien quelque chose dans le fonctionnement de la démocratie qui semble poser un problème et qui conduit des personnes qui, normalement, ne devraient pas se mettre en danger, réclamer d'être sanctionnées pour ne pas appliquer une loi. Et donc, que se passe-t-il en démocratie pour que des gens décident, malgré tout, de désobéir à la loi? Voilà. Et donc, c'est ce symptôme, disons, d'un petit malaise dans la démocratie qu'on a essayé de traquer dans ce livre.
Là, effectivement, vous lisez ces formes de désobéissance civile dont vous constatez l'accroissement depuis quelques années comme étant le symptôme d'un état particulier de la démocratie. Alors, vous avez posé plusieurs questions dans ce que vous avez dit. Tout d'abord, pour quelles raisons désobéit-on et qui désobéit véritablement? Alors, là, je m'adresse aux sociologues en vous. Qui désobéit principalement, Albert Augien?
Principalement, sont des agents de service public qui rentrent en désobéissance. Des enseignants, des professeurs d'université, des chercheurs, des juges, des policiers. On croit que les policiers, ce soit un peu plus compliqué, même des gendarmes, mais qui choisissent des formes un peu curieuses de désobéissance. Mais bon, je n'en dirai pas plus ici. Mais en général, c'est simplement la prolifération de ces mouvements semble indiquer quelque chose. Ce quelque chose, c'est qu'on a changé de mode de gouvernement et qu'il nous semble aussi que c'est un changement qui n'est pas véritablement constaté ou observé de façon sérieuse. Qu'est-ce que c'est que ce changement de gouvernement? À notre avis, c'est le fait qu'on est passé à ce que, à titre personnel, j'appelle un gouvernement au résultat, c'est-à-dire que la statistique administrative à partir de laquelle on définit l'activité de ces personnels, enseignants, chercheurs, juges, policiers, est devenue une statistique qui crée des obligations de service aux personnes et donc et en particulier des obligations de résultat. C'est-à-dire qu'on chiffre ce que les gens doivent faire. À partir de ce chiffrage, on leur fixe des objectifs. Ces objectifs doivent être remplis parce qu'ils sont mesurés par une série d'indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Et leur rémunération, en général, est liée au fait qu'ils atteignent les objectifs qu'on leur fixe. C'est une chose qui a l'air un peu absurde, dite comme ça, mais en fait, c'est ainsi que, depuis une dizaine d'années, l'État s'est mis à fonctionner. C'est-à-dire qu'on a repris les modèles managériaux de l'entreprise, qu'on a calqués sur le service public, et en 10 ans, à bas bruit, on dirait, ça s'est imposé comme une forme d'organisation du travail dans les administrations publiques. Et les effets, au bout de 10 ans, sont ceux qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui, devant ce qu'on appelle souvent des politiques du chiffre, renâclent ou ne comprennent pas très très bien pourquoi on leur demande de faire les choses qu'on leur demande de faire. L'exemple le plus fort étant bien sûr la politique du chiffre en matière d'immigration. Je pense que c'est la chose la plus symptomatique, la plus claire. Voilà, des gens, des policiers en l'occurrence, doivent traquer des personnes pour remplir un quota de personnes à expulser. Et voilà, donc cette chose qu'on voit chez les policiers, qui semble nous horripiler beaucoup, enfin j'espère nous horripile beaucoup en général, on la trouve dans toutes les administrations, soit chez les chercheurs, chez les professeurs, chez les juges, chez les gardes forestiers ou chez les journalistes d'Antenne 2 en particulier.
Donc l'écart entre l'appréciation statistique du travail et l'appréciation de la valeur du travail elle-même, lui-même pour, de la part d'un citoyen, serait une des origines de la désobéissance civile. Et en fait, ce que vous décrivez là, c'est ce que vous nommez la dépossession de soi, n'est-ce pas ?
Voilà, c'est à peu près... On a essayé de... Au fond, que se passe-t-il ? Il se passe que beaucoup de ces personnels de service public ressentent un malaise et sur lequel on ne peut pas mettre un mot très très précis. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer qu'au-delà des cas particuliers dans chaque administration, il y a un phénomène général qui est cette nouvelle modalité d'exercice du pouvoir qui est basée sur la statistique, qui fait que les gens ne se reconnaissent plus dans ce qu'on leur demande de faire.
Pourquoi désobéir en démocratie ? C'est le titre du livre que vous avez écrit avec la philosophe Sandra Laugier, qu'on trouve aux éditions de La Découverte, et donc qui a l'avantage d'avoir cette double perspective à la fois sociologique et philosophique. Merci beaucoup, Albert Rogier.
Merci, Adèle. On finit avec Lucien Gerfagnon.
Mais oui, vous vous souvenez de l'inoubliable Lucien Gerfagnon, ce philosophe qui fait croire qu'il a plus de 80 ans, alors que de toute évidence, son esprit
plus de 90,
ne subit pas... De plus de 90, en effet, donc je ne croyais pas si bien dire, alors que de toute évidence, donc, son esprit ne subit pas le passage du temps comme tout le monde. Nous l'avons déjà reçu plusieurs fois en Nouveau Chemin pour parler de Jean Kélévitch, de Saint-Augustin et de sa remarquable histoire occidentale de la pensée qui se lit comme un roman à rebondissement. Eh bien, on le retrouve ce mois-ci en librairie dans un livre paru chez Albin Michel pour nous parler de la sottise. La sottise, 28 siècles qu'on en parle, affirme l'auteur. Il le prouve avec ce florilège de citations qui, de Montaigne à Cioran, de Plutarque à Umberto Eco, réunit des perles des plus grands auteurs sur la sottise. Les sots seraient-ils si nombreux ? Beaucoup l'ont pensé au long des siècles et ils ne se sont pas gênés pour le dire. C'est ainsi, écrit l'auteur, que cherchant tout autre chose dans les bibliothèques, je découvrais au fil des pages la présence lancinante de la sottise. L'auteur qui explique qu'il aurait aimé écrire une phénoménologie de la sottise, mais effrayé par l'épaisseur du livre qui s'annonçait, il a préféré présenter les fruits de cette cueillette au long des 28 siècles sous forme de citations. Le livre est disponible en ce moment en librairie. Ce serait sot de ne pas l'acheter, et car, comme le dit La Bruyère, il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme d'avoir su éviter de faire une sottise.
Et philosopher, c'est nuire à la bêtise, c'est Nietzsche qui le dit. Vive l'exquise érudition de Lucien Gerfagnon. Merci à tous. Coriolan, La Démocratie et Gerfagnon, c'était La Politique du Jour. émissions, vous pouvez retrouver sur Internet où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois et une bibliographie aussi précise que possible. On se retrouve quant à nous demain pour la suite et la fin déjà de notre semaine sur Shakespeare. C'est avec beaucoup de bruit pour rien qu'on terminera la semaine, donc beaucoup de bruit pour rien nous servira d'épilogue, histoire de finir avec du champagne, une semaine qu'on avait commencée dans le sang. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.